Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes avec Éric Julien. Bonjour.
Bonjour Yves.
Vous êtes maître de parcours.
C'est joli, maître de parcours. Je crois que je suis élève des gens qui viennent étudier avec moi. Je pense que dans une formation, puisque j'ai la chance d'accompagner les formations, ce qui compte, c'est à la fois les étudiants qui nous font confiance, celui qui, ou celle qui les accompagne, et le lieu dans lequel ça se passe. C'est un peu comme le père de la médecine, Hippocrate, qui disait que la médecine, c'est à la fois le patient, le malade et l'environnement. Ben, les formations de l'école sont un peu dans cet état d'esprit.
Et pour ça, vous êtes au sein de l'école de la nature et des savoirs, installée à Maglon, au château Saint-Friol.
Tout à fait exact. On a la chance d'être au carrefour des vallées pour les contemporains de la vallée du Diois qui vont vers Grenoble par Châtillon-Diois ou Luc vers Gap. Et on est un peu près au milieu du château.
Et pour cette année, donc 2018, l'École des Natures et des Savoirs propose un parcours, donc parcours avec un K à la place du C, et qui va se dérouler sur toute l'année. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé depuis mars et ça se terminera en novembre. Donc avec des thématiques qui abordent quelle optique ?
En fait, il y a un principe de philosophie, on va dire ça comme ça, à l'origine de l'école pratique de la nature et des savoirs. C'est un principe qu'on reprend du philosophe Michel Serres, qui disait dans un de ses écrits: nous sommes la nature, nous fonctionnons comme la nature, mais nous semblons l'avoir oubliée. Et c'est vrai que même si ce n'est pas tout à fait exact pour les habitants du Diois, qui ont la chance de vivre dans une nature encore magnifique, 80% de nos contemporains vivent en ville. Donc effectivement, l'oubli de la nature en ville, c'est malheureusement souvent ce qui se passe. Et il termine sa citation en disant: il faudrait remettre la nature et le vivant dans nos pensées. Donc les parcours proposés par l'école sont des parcours où on essaie de réapprendre la vie à l'extérieur, ce qu'on appelle l'environnement, la nature, et la vie à l'intérieur, puisque parfois on l'oublie, mais nous sommes les humains, les homo sapiens, nous sommes des êtres vivants.
Alors concrètement, ça va se dérouler avec plusieurs ateliers ou plusieurs sessions par mois?
Alors derrière cette envie, cette intention, ce projet de remettre le vivant, il y a plusieurs domaines. Le vivant dans la santé, donc ça réinterroge qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé, qu'est-ce que c'est qu'être malade. Donc c'est dans le cadre d'une école qui s'appelle l'école de naturopathie Naturilis, qui est à l'EPNS, qui offre des stages sur la santé. Donc il y a une partie du parcours là-dessus. Une autre partie, c'est l'éducation, et il y a beaucoup d'écoles alternatives dans le Diois qui se posent la question de se dire: est-ce qu'on pourrait pas offrir une autre éducation à nos enfants? Donc c'est comment remettre de la vie ou mettre en vie les enfants dans une école en profitant de la nature. Ça, c'est un stage qui s'appelle Pédagogie vivante, qui va démarrer au mois de mai. Il y a d'autres parcours qui concernent plutôt les formateurs, c'est-à-dire des gens qui aimeraient accompagner de manière vivante des groupes, des organisations, des projets. Souvent, c'est une véritable aventure humaine que de fonctionner ensemble. Donc on a un parcours qui démarre la semaine prochaine de formation de formateurs pour faire en sorte que les projets restent vivants, ce qui paraît anodin. Mais l'inverse de vivant, au cas où on ne l'aurait pas compris, c'est mort. Donc apprendre à accompagner des projets vivants, voilà. Et puis il y a aussi une ferme et des projets sur la permaculture. Je sais que dans le Diois, c'est habituel, c'est connu la permaculture. Mais là aussi, pour les urbains, c'est redécouvrir un rapport au sol, un rapport à la vie, un rapport à l'animal, et un rapport à ce que l'agriculture industrielle, malheureusement, a mis en place. Bah, si on pouvait réinventer, se réapproprier, finalement, l'un des plus beaux travaux de l'humain, qui est de se nourrir.
Alors pour concrétiser ces propositions tout au long de l'année, comment avez-vous, par réflexion et par quel mode de réflexion, êtes-vous amené à aborder les sujets proposés ?
Eh bien, on s'inspire, il se dit souvent dans des traditions que quand nous ne savons pas très bien où nous allons, il est parfois bon de regarder dans le rétroviseur pour regarder d'où l'on vient. Les Africains sont très férus de ce genre de citations. Donc on s'inspire beaucoup de ce que notre société moderne appelle les primitifs, les archaïques, les sous-développés, les autochtones, les peuples premiers que nous préférons appeler peuples racines, qui ont gardé un lien très fort avec la nature. Et il ne s'agit pas de les copier, on ne va pas devenir Cherokee ou Sioux ou je ne sais pas quelle autre ethnie à travers le monde qui réussissent à survivre à notre modernité, il n'empêche leurs principes de vie en matière de santé, de vivre ensemble, d'éducation sont, nous semble-t-il, extrêmement inspirants pour essayer de faire face aux grands enjeux de notre temps dont on voit les menaces, tels des orages sombres au-dessus de dix qui s'amoncellent au-dessus de nos sociétés modernes. Et si les sociétés qu'on appelle archaïques étaient porteuses de quelques inspirations pour notre modernité? C'est un peu ce qui inspire ces parcours.
Alors, avant d'aborder le reste de l'année à venir, on pourrait peut-être parler du bilan de ces premières rencontres qui ont eu lieu en mars, avec comme thématique « Piloter sa transition ». Déjà, est-ce que on pourrait nous expliquer ce titre ?
Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un peu ambitieux. Est-ce que dans sa vie, on pilote vraiment quelque chose ? Ça pose derrière la question de la liberté. Quelle est ma part de liberté dans mes choix et mes décisions ? Mais en tout cas, ça accueille 18 personnes, entre 18 et 20 personnes. C'est un de nos parcours qui marche le mieux, et ça accueille des gens de tout horizon, tout métier, toute profession, qui sont dans un moment de leur vie, des jeunes, des moins jeunes, qui se disent la situation dans laquelle je suis me convient ou pas du tout ou pas vraiment, et j'aimerais bien essayer de bouger quoi et comment pour aller vers une situation qui me convienne mieux. C'est en permaculture, c'est comment trouver sa niche, comment trouver une place dans laquelle je me sente mieux. Ça pose plein de questions sur les peurs, sur les croyances, sur comment je m'y prends, voilà. Donc c'est un parcours qui démarre aux Amanins, en bas de la vallée de la Drôme, hein, et on accueille le groupe aux Amanins, et qui, pendant les différentes phases d'apprentissage, etc., visite la vallée de la Drôme, puisqu'on monte à Die, passe par Saillant, on s'en va jusqu'à Bellegarde et Mont-Lahuc sur le Haut-d'Iwa, puis on redescend. Donc c'est à la fois un parcours itinérant, qui veut illustrer le passage des gens d'une situation inconfortable à une situation meilleure, et c'est une situation où ils essayent de se mettre en route sur leur projet de vie. Et je dois reconnaître qu'on assiste à des métamorphoses, vous savez, un peu comme la chenille qui se transforme en papillon, où finalement certains des stagiaires qui nous ont fait confiance osent laisser éclater les magnifiques couleurs que chaque humain porte en lui.
Et puis, on va aborder la prochaine session qui aura lieu donc ce week-end et qui aura comme intitulé « Facilite acteur ».
Facilite acteur. C'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ça pose la question d'un groupe d'humains. C'est comme un champ de fleurs au printemps dans le Diwa. Il y a des petites fleurs, des grandes fleurs, des jaunes, des rouges, des verts. Enfin bref, on appelle ça la biodiversité. Et pourtant, il faut que ça apprenne, tant bien que faire se peut, à pousser ensemble pour faire un écosystème. Et on se dit souvent que dans un écosystème, chacun a sa place. Et ce qui fait l'écosystème, c'est la relation. Comment le poireau va se mettre en relation avec la fraise, avec le tilleul, avec la vigne. Voilà. Comment tout ce petit monde végétal va pousser ensemble. La question qui se pose pour les plantes dans le Haut-Diwa au printemps se pose pour les humains qui ont envie de converger dans un projet. Notamment habitat partagé, permaculture, on est riche dans ce territoire d'envie de faire ensemble, et parfois on a du mal à trouver les voies, les chemins, les outils, les valeurs permettant de faire éclore un joli projet. Donc ce parcours là qui démarre ce week-end s'adresse aux formateurs, aux coachs, aux gens qui ont envie de former ou de développer des projets pour se dire finalement quels sont les 3-4 outils ou les 3-4 trucs ou les 3-4 éléments de check-up, un peu comme on part en voyage. Est-ce que j'ai le passeport ? Est-ce que j'ai mon billet d'avion ou mon billet de train ? À ne pas oublier avant de s'engager dans la belle aventure du faire ensemble.
Alors, ces propositions correspondent à des demandes que vous avez certainement perçues. Comment ça se passe justement entre la formulation de demandes de ces ateliers et puis ce que vous proposez ?
Bizarrement, les parcours qu'on propose sont des parcours qui pourraient être d'actualité, qui auraient pu être mises en place il y a 200, 300, 400, 500 ans en arrière. La question du vivre ensemble, du faire société, du faire que je me réjouisse que mon voisin soit différent, et non pas que j'ai envie de l'étrangler avec sa tondeuse le dimanche matin à 8h, cette question, elle existait dans les cités grecques, elle existe au travers de la planète, dans toutes les époques et dans tous les espaces. Donc les questions qu'on aborde du vivre ensemble, elles ne sont pas nouvelles. Par contre, elles se posent dans un contexte, on appelle ça, les scientifiques appellent ça l'anthropocène, une époque géologique où les humains que nous sommes impactent directement les grands écosystèmes de notre planète. Donc c'est une manière de vous dire qu'on revisite des questions de tout temps et de tout espace, mais on les revisite à l'aune ou à l'ombre ou à la lumière d'une question qui est quand même pas banale. Comment allons-nous repenser les choses avec la nature et non plus contre elle ?
Et pour ça, vous avez certainement une source d'inspiration dans le texte classique, dans la philosophie ?
Oh, les sources d'inspiration, elles sont tellement nombreuses. Il y a un Jacques Ellul, qui était un monsieur qui est mort il n'y a pas très longtemps, bordelais, qui travaillait sur la technique, entre autres, protestant, et qui avait une jolie phrase qui disait toute phrase ou tout mot qui n'est pas habité n'est que bruit. Nous avons quelques faiblesses et amour pour Edgar Morin, avec son grand âge, et sur tous ses ouvrages, l'éducation, l'avenir de la planète, la pensée complexe, qui nous inspire beaucoup. Je n'ai pas la liste en tête comme ça, mais en fait, quand je vais, je ferai de la pub indirecte à les librairies Mosaïques dans la rue Camille Buffardel, et que je regarde toutes ces magnifiques sources d'inspiration qu'il y a sur les tables de cette superbe librairie, que je remercie de tenir coûte que coûte le livre de qualité dans notre région. Quand je vois tout ça, je me dis quelle richesse d'inspiration. Il ne nous reste plus qu'à la mettre en musique, c'est-à-dire en pratique.
En parlant livres, les médiathèques participent un petit peu à ça, ou est-ce que vous avez des liens avec des organismes qui amènent le public à la culture ?
Alors, la question de l'innovation, qu'elle soit radiophonique, et si vous aviez l'image, chers auditeurs, vous verriez que j'ai un petit sourire, ou qu'elle soit sociétale, est toujours très difficile à porter sur les territoires. L'innovation peut inquiéter, déranger, voilà. Donc on a eu, à l'époque d'une autre majorité politique, un gros soutien politique de la région pour lancer l'ingénierie de ces formations. On a eu quelques soutiens aussi d'organisations publiques et privées diverses et variées. Pas forcément les médiathèques, mais on essaye beaucoup, par exemple, sur les parcours écoles, puisqu'on a une école primaire, d'inviter les écoles publiques du territoire à partager l'intérêt d'une mare pédagogique qu'on a installée au château, avec des petits têtards, des grenouilles, etc. Donc on fait venir les autres enfants. On essaye au maximum de tisser des liens entre tous les acteurs de notre beau territoire, parce qu'il se dit souvent que nous sommes le fruit de la qualité de nos relations. Et plus nos relations sont belles, plus les projets des uns et des autres seront fructueux.
Dans ces parcours, un mot revient souvent, c'est passeur. Mmh. Est-ce qu'on pouvait définir ce terme de passeur ?
Le passeur, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément un expert, c'est-à-dire qui sait. On est un peu en train de mourir, je prends volontairement un mot bizarre, de mourir sous le joug de tous ceux qui parlent dans les médias nationaux et qui savent et qui nous expliquent doctement ce qu'il faut faire. Donc le passeur, c'est pas quelqu'un qui sait. Le passeur, peut-être que ce qu'il sait, parce qu'il faut quand même qu'il sache un peu quelque chose, c'est justement comment donner envie aux nouvelles générations ou à ceux qui savent moins de se mettre eux-mêmes en mouvement pour construire eux-mêmes leur histoire. Si je vous prenais une métaphore, l'expert, il s'occupe des ingrédients du gâteau. Si on prend un exemple de métaphore gâteau, c'est-à-dire la farine, les œufs, qu'est-ce qu'on met, de l'huile ou du beurre pour le plat, et la température du four. Ça, c'est le job de l'expert, de savoir comment faire. Par contre, le passeur, il s'intéresse à la recette, c'est-à-dire comment on va faire pour que ces ingrédients fassent un magnifique gâteau. Le passeur, il ne sait pas grand-chose, il sait simplement qu'il peut aider les autres à grandir.
Et tout ça au milieu de la vie sauvage, donc, puisque vous abordez aussi cette thématique avec l'art de la vie sauvage.
Nous avons la chance d'avoir dans l'école des intervenants que je trouve magnifiques, notamment vous évoquez l'art de la vie sauvage, c'est Kim Patch qui est un parcours bizarre ce garçon. Il vient d'être papa pour la deuxième fois, donc profitons-en pour le féliciter lui et sa maman. Je dis un parcours bizarre parce qu'il a des racines espagnolo, suisso, canadiano, drômoises, il s'installe dans la Drôme. Et il revisite, c'est un archéologue, il revisite les gestes qu'on appelle premiers et primitifs, genre allumer du feu, genre faire des paniers, et c'est très intéressant parce qu'il les revisite à travers les expertises et les savoir-faire des Nord-Amérindiens, canadiens notamment, et finalement à travers ça, il réveille les savoirs de nos anciens sur le territoire. Et il se dit souvent qu'une société qui réveille sa mémoire est une société qui est capable de construire son futur. Donc c'est peut-être à travers ces gestes premiers qu'on pourrait retrouver la voie du futur.
Et effectivement, par rapport à cet héritage culturel et ces pratiques que vous proposez sont plus liées au rural qu'à l'urbanisation, qu'à l'urbain.
En fait, elles sont liées à toute personne qui a envie de retrouver la nature, c'est-à-dire sa nature quelque part. Et on a un site de formation en pleine nature qui s'appelle La Comtesse, qui est sur la commune de Val-Maravel, où la première chose qu'on propose aux gens, c'est d'éteindre leur téléphone, c'est pas bête qu'ils se déchargent inutilement, de le mettre dans une boîte Et ça paraît tellement énorme. Je vois Yves qui hoche du bochet, du moche du... Ah, de la tête, voilà, qui fait ces questions et qui a des cheveux blancs. Donc nous avons tous les deux vécu un moment où il n'y avait pas les téléphones portables. Aujourd'hui, on se dit, c'est incroyable, on est complètement dépendant de ces machines. Donc la première chose qu'on leur propose pour se retrouver en nature, c'est de quitter ce téléphone. Voilà, donc c'est un ensemble de protocoles adaptés à toute personne urbaine pour retrouver effectivement la nature en eux et autour d'eux.
D'autant que les téléphones ne sont pas forcément fiables pour ce qui est de communiquer, hein, surtout en été.
Sans doute peut-être pas le meilleur support.
Voilà. Et après, vous parlez du sentir. Donc pour ça, vous empruntez des chemins.
On a effectivement un parcours qui s'appelle la voie du sentir. C'est assez curieux. Nos sociétés modernes sont des sociétés patriarcales, masculines, qui aiment bien, y compris les dirigeants d'entreprise ou les hommes politiques, comme disait Coluche, jouer au train électrique. Une manière de dire qu'ils aiment bien contrôler, ils aiment bien la matière, ils aiment bien le visible, ils aiment bien les tableaux Excel, où on range les choses dans les petites boîtes. Or, notre société ne peut pas être réduite dans sa diversité à cet aspect-là de la vie. Il y a une dimension féminine, plus invisible, plus lunaire, plus émotionnelle, plus intuitive. Et en fait, dans cette école, on essaye non pas de mettre l'un contre l'autre, mais de faire ce qu'enseigne le Tao, c'est la réconciliation des contraires. Il faut redonner de la place au féminin, il faut redonner de la place à l'invisible pour retrouver une voie d'harmonie. Et ce qui est très difficile dans cette voie, c'est que, puisque c'est invisible, c'est pas forcément facile à faire comprendre aux petits messieurs qui jouent au train électrique. Et train électrique sans aucune évocation de l'actualité.
Et en parlant d'invisibilité, est-ce que ça ne serait pas justement un des méfaits de l'informatique et de l'Internet aujourd'hui? C'est de vouloir à tout prix rendre visible l'invisible.
Alors là, Yves me pose une question métaphysique qui demanderait un petit peu de réflexion pour y répondre. Mais comme nous n'avons pas le temps, je vais aller au plus vite. L'impression que me donne l'informatique, je ne le mettrai pas dans une volonté de vouloir rendre visible l'invisible, parce que pour moi, par nature, l'invisible n'est pas visible. En revanche, ce qui peut être visible, c'est dans quel moment et à travers quel signe s'exprime l'invisible. Et finalement, c'était un prix Nobel de littérature, Jean-Marie Gustave Le Clézio, qui disait dans un de ses premiers livres, H-A-I-T-R-E-M-A, qui est une pure merveille, qui parlait d'une communauté indienne au nord de la Colombie, qui dit « Ce qui différencie les sociétés traditionnelles des modernes, c'est leur capacité à lire les signes, c'est-à-dire à savoir écouter ce que la nature invisible a à nous dire. Et ça, l'informatique, ils pourront envoyer toutes les voitures rouges qui volent dans l'espace, ils n'y arriveront jamais.
Et même pour l'intelligence artificielle, il y aurait un gros travail.
L'intelligence artificielle, je reprendrai la réaction de Michel Serres, parce que c'est pas pour me prévaloir d'un grand monsieur, mais parce que sa réaction m'avait beaucoup plu. Il était sur un studio de télévision et quelqu'un lui posait, alors monsieur Serres, l'intelligence artificielle. Et il a fait de réponse, il a fait... Voilà.
D'accord.
Je pense que ça reflète quelque part... une absolue conscience de ce que c'est que la vie et un manque d'humilité pour le comprendre et une arrogance incroyable.
Te comparo con las flores, cual si fueras primavera. Te comparo con las flores, cual si fueras primavera, era la más verdadera prenda de mi corazón. Era la más verdadera prenda de mi corazón. Con las flores, cual si fueras primavera. Te comparo con las flores, cual si fueras primavera. Era la más verdadera prenda de mi corazón.
Adiós. Yo no quiero que me diga adiós. Yo no quiero que me diga.
caballo.
Yo no quiero que me abraces más,
tanto como te quería yo.
Yo no quiero que me quieras más.
Adiós, mi Carmelina, adiós.
Yo no quiero que me digas adiós.
Ay, mi
parcours, vous les proposez à toutes sortes de gens, familles comprises.
Nous avons un parcours qui s'appelle Immersion Nature Famille, où deviennent parfois plus ou moins en perdition, je dis plus ou moins parce qu'il y a des gamins avec leurs adolescents qui sont sur leur tablette, leur téléphone, qui ont la suractivité, qui ne sont pas bien au collège, etc. Et sans faire de forfanterie avec l'expérience, on a déjà fait 3 ou 4 de ces parcours, c'est extrêmement apaisant pour les parents et les enfants, ça renourrit la relation. J'ai envie de dire, ça leur permet familialement de retrouver des essentiels. Et je peux vous dire que les métamorphoses auxquelles nous assistons, de se retrouver dans un lieu de nature sans téléphone, sans télé, sans environnement agressif, sans pub, à repartager quelques gestes singuliers du quotidien, c'est éminemment soignant, au sens où ça remet les liens de qualité en place.
Et puis on aborde peut-être les derniers parcours. Avec Chantier Séjour, alors comment ça se passe à Chantier Séjour ?
Chantier Séjour, ça concerne des gens, il y a plein de gens qui viennent, des gens qui viennent de Lyon, de Grenoble, enfin de toutes les métropoles régionales, qui n'ont pas forcément envie de faire un stage ou une formation ou un parcours au sens où ils voudraient apprendre quelque chose, mais qui ont quand même envie de partager un temps pour se retrouver en nature. Donc ils ont eu une formation accélérée d'une demi-journée pour savoir comment fonctionnait le site de la Comtesse où nous accueillons nos formations en pleine nature. Et le deal, entre guillemets, qu'on a avec eux, c'est vous venez nous aider à entretenir le site, remonter un mur, faire une voûte, donc vous avez un apprentissage technique ou même pas forcément technique, d'animation. Et en échange, nous, on vous partage, on vous apprend, on vous donne accès au site. C'est un donnant-donnant et j'aime bien ce donnant-donnant parce qu'il est sacralisé dans toutes les traditions. L'échange créatif, le donnant-donnant créatif est à l'origine de la vie, ça s'appelle l'amour.
Est-ce que l'éducation aussi est en quelque sorte un échange, une transmission aussi de savoir et
On a un parcours qui s'appelle éduquer avec le vivant, qui doit être au mois de mai, si mes sources sont exactes, je ne sais pas si vous avez les dates. On a tous les deux le programme sous les yeux.
C'est le premier parcours de mai.
C'est le premier parcours de mai, voilà. Et dans ce parcours, Muriel Fifis, qui a créé l'école Caminando, qui existe depuis 5 ans, avec 22 élèves au château de Saint-Ferréol, est dans une posture qu'on évoquait plus de posture de processus, de passeuse, pour essayer de faire prendre conscience par l'expérience, souvent à des gens qui viennent de l'éducation nationale et qui ont un peu de mal dans leur classe classique, à s'inspirer de ces méthodes pédagogiques qui elles-mêmes s'inspire de la plus grande des maîtresses et des enseignantes, la nature. Les chamans disent souvent « tout est écrit dans la nature, encore faut-il avoir les bonnes lunettes ». Ou en tout cas la bonne grille de lecture pour lire, écouter ce que la nature a à nous dire. Je crois que c'était l'homme à la Madeleine, hein, Marcel, qui disait, Marcel Proust, qui disait « le plus grand des voyages, c'est de changer de regard, et si on pouvait changer de regard sur la nature ».
En octobre, il y aura ce parcours intitulé « Pour une éducation différente ». Donc ça va un peu à l'encontre de ce que vous affirmiez au début d'émission sur le fait de ne pas vouloir présenter ça comme un cadre un peu scolaire ou de formation. Qu'est-ce que vous prenez comme différence d'éducation ?
Eh bien, je vais vous donner deux différences majeures qui n'existaient pas au temps de Montessori, pour prendre cette méthode qui est un peu plus connue, ou Freinet, ou Steiner, ou d'autres pédagogues qui ont œuvré à imaginer de nouvelles méthodes éducatives. La chose essentielle qui n'existait pas à leur époque, c'est le téléphone portable et le numérique. Ce qui veut dire qu'avec le numérique, ils ont accès, les enfants ont accès à toutes les informations sur un sujet. Imaginons un enfant parfait qui a un exposé à faire sur ce qu'il veut, enfin j'en sais rien, encore faudrait-il se mettre d'accord sur parfait, mais bref, qui a envie de travailler, il va faire chercher sur internet ces informations. À la limite, en termes d'accès au savoir, il n'a pas besoin du prof. Donc en termes de posture pédagogique, l'autorité de l'enseignant qui se jouait à travers sa maîtrise du savoir, avec les blouses grises et les enfants qui apprenaient le savoir que transmettait l'instituteur ou l'institutrice, ça s'écroule, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, toujours ces petites machines amènent deux choses qui n'existaient pas au temps de Montessori et de Freinet et de tous nos amis. Un, c'est l'accès à une pornographie généralisée qui se trouve maintenant dans les téléphones portables des enfants en collège, qui les traumatise complètement parce qu'il n'y a aucun contrôle de cette pornographie et c'est dramatique. Donc on récupère parfois des enfants qui ont été traumatisés par ce genre de choses. Et deux, les situations de harcèlement, avant, quand elles existaient, elles s'arrêtaient à 17h. Quand les enfants sortaient de l'école, maintenant c'est 24 heures sur 24. Donc ces nouveaux outils ont complètement modifié le rapport à la question de qu'est-ce que c'est qu'un enseignant, qu'est-ce que c'est qu'un processus pédagogique, si ce n'est plus sur le contenu, puisque les téléphones portables donnent accès à tout, c'est donc sur la posture. Donc comment on enseigne au 21e siècle ? C'est un peu modestement l'enjeu de ce parcours.
Et le dernier parcours qui sera donc piloter sa transition, ferme cette parenthèse d'ouverture avec piloter sa transition de la première séance de mars.
On en fait deux, on en fait un à l'arrivée du printemps pour les gens qui veulent piloter sa transition de l'hiver vers l'été. Et puis d'autres qui sont en fin d'été et qui se demandent comment je vais traverser l'hiver pour piloter leur transition en rentrée d'hiver. C'est un peu le même modèle que je vous ai évoqué évidemment en début de partage des émissions. C'est un ensemble de personnes qui pour des raisons diverses sont pas très bien dans leur vie professionnelle, personnelle et qui se demandent n'est-il pas venu le temps pour moi d'aller rechercher la vraie personne qui est en moi. Ou vous savez, on a souvent, pas toujours heureusement, mais des parents qui nous disent non ma fille, tu feras pas de la peinture, tu gagneras pas ta vie comme ça. Bon, c'est du refoulement. Ou l'autre à qui on a dit toi tu seras ingénieur parce que si tu veux trouver du travail, voilà. Il y a plein de gens qui sont rentrés dans des parcours de vie, ou au contraire des parents qui proposaient un parcours et les enfants qui ont fui, se réfugier parce qu'ils voulaient pas rentrer dans le modèle parental, qui arrivent à la mi-temps de leur vie et qui se disent finalement, ce que j'ai refoulé sur un plan artistique, ou le métier que j'ai pas fait parce que mes parents m'ont interdit de le faire, ou voilà, ou j'en ai marre de vivre en ville, alors que tout mon corps me dit qu'il faut que j'aille vivre à la campagne, qu'est-ce qui m'empêche d'y aller ? Donc on essaie de les accompagner pour les aider à faire le premier pas. C'est une chanson, hein, toute première fois et le premier pas, c'est toujours le plus difficile.
Et pour présenter parcours, vous vous présentez comme laboratoire territorial des mutations. Alors, on pourrait peut-être parler vaguement de tout ce que c'est, de tout ce que sont ces mutations.
En fait, ce qu'il y a derrière, c'est, je parlais d'un changement de regard. Il y en a un premier de changement de regard proposé, évidemment, à ceux qui ont la gentillesse de nous rejoindre. C'est, est-ce qu'on pourrait pas parler du passé, du paysage au pays sage? Et ça, c'est une sacrée mutation. Le paysage, c'est une esthétique, c'est un truc qu'on regarde, on va dire c'est joli. C'est ce que viennent chercher les touristes dans le Diwa, ils viennent chercher un joli paysage dans lequel on peut se promener pour faire des loisirs et acheter des produits locaux. Le paysage, c'est considéré que c'est un acteur, que le paysage est un acteur, il devient paysage. Il a quelque chose à nous dire, encore faut-il savoir l'écouter. Ça, c'est une vraie mutation du regard. Et le deuxième que j'aurais envie de glisser aux aménageurs de l'espace qui refont des routes en ce moment sur notre territoire à tour de bras, ce serait de leur dire, et si on pouvait passer de l'aménagement du territoire au ménagement des lieux. C'est-à-dire apprendre à ménager le lieu avec lequel nous sommes en relation. Voilà, c'est deux exemples. Et puis le troisième que je pourrais vous donner, c'est si on pouvait passer de l'égo-système, moi au centre, moi je au centre, à l'écosystème, nous ensemble. Il est quand même intéressant de se dire que les sociétés humaines, notamment ceux qu'on appelle indiens ou archaïques ou primitifs, dans lesquels le mot ennemi, connard, abruti, taré, crétin, enfin l'autre qui nous énerve, n'a pas été inventé. Il y a des mots où le mot ennemi n'a pas été inventé, donc la guerre, la destruction de l'autre qui m'énerve n'a pas été inventée. Donc la vraie question, c'est pourquoi des sociétés ont-elles créé la guerre, les nôtres, et comment se fait-il que d'autres sociétés n'ont pas créé la guerre? Donc il y a vraiment derrière un changement de regard, une mutation de regard avec cette nature, arrêter de la violer, de la violenter, mais commencer à retrouver des liens de paix.
Quelle est la démarche non seulement, par exemple, pour redonner un sens à son existence, je pense que c'est une des priorités, d'avoir aussi une vision d'un point de vue de la nature aussi. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé pour monter ce cycle? Et vous faites partie aussi de la structure de l'école de la nature et des savoirs?
C'est une école, l'école pratique de la nature et des savoirs, qui a été créée en 2006. Donc on arrive à nos 12 ans et je suis un des deux fondateurs. On est aujourd'hui 18 dans l'école. Et là, j'ai envie de dire que la velléité, elle n'est pas facile. On n'y arrive pas toujours. C'est pour ça qu'on parle de laboratoire. Dans un laboratoire, des fois, les éprouvettes vous pète à la figure parce que vous n'avez pas fait les bons mélanges, mais celui qui peut me dire j'ai la recette exacte du vivre ensemble, je sais comment tenir à distance égo, croyance, émotion et tous les boulets qu'on se traîne tous dans nos existences, je le rencontrerai avec plaisir. Donc on ne prétend pas avoir la réponse, mais en tout cas on prétend essayer de la trouver en risquant de se ramasser la tronche régulièrement, ce qui fait partie de l'expérience. Et ce qui m'a motivé, c'est sûrement lié à mon histoire personnelle, c'est quelle est la voie pour essayer de retrouver une paix intérieure. Je pense que des hommes et des femmes en paix joyeuse, il n'y a pas de raison d'être triste, intérieure, sont prêts à recevoir l'altérité comme un cadeau et non pas comme une menace. Et comme on est dans une société qui nous attire vers l'extérieur sans arrêt, on est attiré par les produits de consommation, on est attiré par des tas de choses extraordinaires, on est en vide intérieur. Donc finalement, se retrouver à l'intérieur et retrouver la nature en soi, c'est peut-être la condition pour faire la paix extérieure et surtout avec cette dame nature à laquelle on doit tout.
On en revient au pouvoir, peut-être. Justement, l'homme intranquille, quel dirigeant a-t-il?
Il se dit que nos sociétés ont les dirigeants que nous méritons. Donc je ne sais pas, on est des êtres paradoxaux en France. On va être très vite contre et puis on va être pour. Et voilà, on mène des combats comme ça. Et on se rend compte souvent qu'on n'a pas toujours la juste mesure de qu'est-ce qui se joue fondamentalement. Qui peut vraiment savoir les réels enjeux qui ont été négociés, où, par qui, comment, entre les acteurs, soit de la ZAD à côté de Nantes en ce moment, de Notre-Dame-des-Landes, soit même de la fermeture de l'hôpital. On n'a jamais la totalité de l'information et un Romain célèbre disait les humains ont besoin de pain, de jeu pour les mettre tranquilles. Donc comment savoir sur quoi réellement nous pouvons fonder une décision? J'en sais rien. Donc je ne suis pas à même de juger quel est le dirigeant le plus adapté à diriger une nation ou un pays. Par contre, il y a une chose que j'essaie de regarder avec mes faibles moyens, c'est est-ce que le dirigeant en place est réellement garant de notre système démocratique, c'est-à-dire de notre capacité individuelle et collective à interpeller un pouvoir. Parfois oui, parfois non, et ça me paraît précieux d'être dans un pays où on peut mettre une banderole sur un immeuble sans finir en prison. Ce n'est pas le cas de tous les pays.
Donc après, j'aborde le côté pratique. Tous ces parcours sont sur une période d'une semaine, de quelques jours. Donc vous envisagez un hébergement aussi des personnes qui viennent?
Alors un parcours de formation tel qu'on essaye, un parcours de les développer à l'EPNS, c'est un peu comme du bon vin. On met du vin qui est fraîchement pressé dans une cuve et au bout d'un certain temps qu'on appelle de la vinification, avec de la température, un grammage de sucre et une forme de récipient, voire un matériau, il peut en sortir un nectar. Et ben les parcours sont construits comme ça, c'est-à-dire que ce qu'on va appeler le récipient, l'hébergement, ou la logistique, si on est un peu plus pragmatique, est un acteur clé de la formation. Donc on a deux, trois voies, soit notre centre immersion nature de la Comtesse, alors là on est en pleine nature, on redécouvre les joies, soit du camping, soit du hamac entre deux arbres, voilà, du rudimentaire, soit s'appuyer sur les hébergements de la vallée, ça va des Amanins en passant par le centre de Saint-Féréol qui vient d'ouvrir, qui accueille des groupes, le centre d'hébergement, en passant par des gîtes de la vallée. Voilà, soit en travaillant avec les hébergements de l'école. On varie un petit peu les plaisirs selon les besoins des parcours. Après, il y a même un parcours, oui. Pardon, où les gens, justement, c'est un des objectifs du parcours, que de les faire se débrouiller pour trouver leur propre hébergement. C'est Kim Patch, notre trappeur d'étape, qui s'occupe de ce parcours. Il travaille avec un garçon qui participait à une émission qui s'appelait Nuit et culotté. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc il devait partir. Voilà, il devait partir tout nu, atteindre une mission improbable. Bah, ils ne les font pas partir tout nu, mais presque. Ils leur donnent une mission dans la vallée de la Drôme, et à eux de se débrouiller pour atteindre leur objectif, ce qui t'oblige à passer dans la tête de ingénieur, c'est-à-dire je maîtrise ou je contrôle, à ingénieux, je me débrouille avec ce que je trouve et j'imagine et je crée des choses.
Voilà, j'ai reçu il y a deux week-ends de ça, justement deux personnes, un homme et une femme, qui pratiquaient ce challenge et étaient équipés aussi d'un appareil Polaroid pour photographier les rencontres.
Voilà, et ce qu'on est en train de se dire, c'est un principe même de la vie, c'est-à-dire c'est créer avec. Créer avec une rencontre, créer avec une personne. Donc c'est forcément être dans l'amour. Parce que pour créer avec, il faut qu'il y ait une relation qui s'instaure de confiance.
Et le but pour eux était de trouver l'hébergement pour la nuit. Hein.
Donc ouais, il faut qu'ils se débrouillent. Où est-ce que voilà. Je vais dormir? Comment se déplacer? Donc il faut forcément rentrer en relation. Bonjour monsieur, je suis tout nu. Symboliquement, pourriez-vous m'emmener à telle mystérieuse destination?
Il y a une question que je me pose un peu naïvement, et c'est pas d'aujourd'hui.
Quand je vous regarde, vous n'avez pas l'air naïf du tout. Mais
non. Et est-ce que l'homme a oublié d'hiberner?
Je dirais qu'à partir du moment où l'homme a oublié qu'il est un être vivant et que, comme toutes les formes de vie, il est largement soumis au cycle de la vie, c'est une aberration absolue qui me révolte de faire lever nos enfants en plein hiver à 6h du matin pour qu'ils puissent aller prendre un cours de maths à 8h au collège alors que personne n'est en état de mobiliser ses neurones à cette époque de l'année et qu'on les mette à se tourner les pouces en pleine saison estivale dans le Diois en plus au mois d'août pendant 3 mois de vacances. Donc dans l'école qu'on essaie de développer, on a eu la liberté, étant école privée laïque, de bouger les calendriers scolaires avec l'accord des parents. Donc en hiver, je ne sais pas si on hiberne, mais en tout cas on se met sur des rythmes beaucoup plus doux et beaucoup plus lents.
Et puis on va parler aussi d'autres pratiques, comment vous joindre?
Par téléphone, ça reste extrêmement moderne.
Oui.
Par Internet, le plus simple c'est Internet, évidemment on a un site, hein, c'est École Nature Savoir, tout accroché, École Nature Savoir, vous tomberez sur le site. Et alors le téléphone 43 84 04 75 21 43 84. Il y a deux numéros, hein, je ne sais plus l'autre.
Je garderai le vôtre.
Pas de souci.
Et puis pour ce qui est du site Internet, donc École Nature et
Savoir.
Nature Savoir au pluriel .com, tout attaché.
Et on se réjouit de vous rencontrer, les gens qu'on ne connaît pas encore.
Eh bien, je ne vous connaissais pas non plus. Et vous êtes de quelle formation? Vous vous destinez à quoi au départ?
Moi, je ne suis pas de formation, je suis de déformation. Et c'est ça qui m'a sauvé la vie. J'ai été accompagnateur et guide de montagne pendant un temps. J'ai fait par hasard un institut de sciences politiques et de la géographie, donc le rapport à l'espace. Et j'ai été formé, et je continue à être formé depuis 30 ans par une communauté indienne qui est en Colombie, qui s'appelle les Kogi. Et pour la petite histoire, les Kogi vont venir proposer un diagnostic de santé territoriale du Diwa. C'est la première fois qu'on va reconnaître l'expertise des chamans comme étant une expertise aussi valable que celle de nos scientifiques. Donc on va voir si les scientifiques et les Kogi vont avoir des choses à se dire sur la santé d'un territoire.
Et ça, c'est pour quand?
Ça sera pour l'automne 2018.
D'accord. Vous reviendrez nous en parler, certainement.
Avec grand plaisir.
Tout à fait.
Je pourrais même vous inviter un ou deux de ces chamans, mais il faut un rapport au temps un peu particulier.
J'imagine bien, oui. C'est un peu comme en Afrique. Hein.
Ce sont des continents qui n'ont pas la
même notion du temps.
Un peu privilégié.
Oui, on aborde bientôt la fin. Est-ce que je pourrais vous demander, peut-être, par un choix musical qui permettrait d'illustrer cette émission?
J'aurais adoré, je ne sais pas si vous pouvez le trouver, Toto la Mompocina, qui est une chanteuse de cumbia colombienne, ou bien Carlos Vives, une longue histoire en Colombie, et un morceau qui s'appelle La Gota Fria. la Gota Fria. Carlos Vives est un Colombien qui est aussi connu presque que Shakira en Amérique du Sud. Enfin, c'est une pointure dans son pays. Et la Gota Fria et cette histoire de chanson vient de la Sierra Nevada de Santa Marta où vivent ces Indiens Kogi. Et c'est là-bas qu'est décédé mon frère de cœur, assassiné par la mafia paramilitaire. Et c'est lui qui m'a tout appris, ce que je viens de vous partager, et ce sera un bel hommage à sa mémoire.
Eh bien, merci bien, Éric Julien, et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci de m'avoir accueilli, c'était un plaisir de voyager quelque temps dans ce beau pays du Diwa.
Au revoir.
Au revoir.
Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita.
Sería de la misma rabia.
Te fuiste de mañanita.
Sería de la misma rabia.
¡Upa! ¡Ay, hombre! En mi nota soy extenso. A mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso. A mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo.
Mañana sábado día la virgen.
Para tocar con Lorenzo.
Mañana sábado día la virgen.
Me lleva él o me lo llevo yo.
Pa' que se acabe la vaina.
Me lleva él o me lo llevo yo.
Pa' que se acabe la vaina.
Ay, Morales, a mí no me lleva.
Porque no me da la gana.
Moralito, a mí no me lleva.
En los cardones.